Chers amis des cellules, bonjour et sainte année 2023. Je vous propose comme premier enseignement de 2023 de nous pencher sur le texte de l'Épiphanie que nous célébrerons dimanche prochain. Nous serons tout particulièrement attentifs à éclairer le contexte et les symboles utilisés dans ce texte de l'Épiphanie. Mais écoutons l'Évangile. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée. » Car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'extrait était dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Lorsqu'il écrit son Évangile, saint Matthieu s'adresse à des chrétiens issus du judaïsme. Cela signifie qu'ils connaissent les Écritures et qu'ils sont tout particulièrement sensibles à leur accomplissement. Discrètement, le premier verset établit déjà une tension. Simplement en disant « Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand ». En effet, le roi Hérode n'est pas de la famille de David. Il ne devrait pas régner en Israël. Et s'il règne en Israël, c'est grâce au pouvoir des Romains, c'est grâce au soutien des Romains. Son pouvoir, il l'a bâti avec beaucoup d'habileté politique et aussi en supprimant tous ceux qui pouvaient faire de l'ombre à son influence ou à son pouvoir. Aux yeux des hommes, il fait de grandes choses. C'est un grand bâtisseur. Il a reçu le titre de Hérode le Grand. On lui doit la restauration du temple de Jérusalem, on lui doit de nombreux aménagements de grandes villes en Israël, mais son pouvoir n'est pas légitime, et ce n'est pas un ami de Dieu. Ce contexte historique nous amène déjà à une considération spirituelle. Nous contemplons dans l'histoire la naissance du Sauveur, mais nous ne la contemplons pas simplement pour nourrir notre connaissance historique, nous la contemplons pour que nous accueillions véritablement le Sauveur aujourd'hui au cœur de notre vie. Et donc il y a une interrogation, c'est aujourd'hui, qui est-ce qui règne dans mon cœur? Est-ce que c'est le Seigneur qui règne? Est-ce que j'aspire à son règne? Ou bien est-ce que j'ai laissé se développer dans ma vie des petits Hérodes qui ont tendance à devenir grands? Peut-être que je suis sensible au regard des hommes, à l'appréciation des hommes. Peut-être que je laisse beaucoup de place à la renommée, au pouvoir, ou peut-être à la convoitise, que ce soit à travers l'argent ou la sensualité. Le cœur du chrétien est normalement une terre consacrée à Dieu. Est-ce que le roi de cette terre est un roi légitime, ou n'ai-je pas laissé régner un Hérode le Grand sur ma vie, sur mes habitudes? Si tel était le cas, n'ayons pas peur. Réjouissons-nous parce que l'Évangile que nous entendons a pour but de nous tourner vers celui qui est le roi véritable, le roi voulu par Dieu, le Messie, Jésus. Dans ce même verset, on nous précise que Jésus était né à Bethléem. Bethléem, la ville de David en Juda. Et cela nous ouvre à deux références dans les Écritures. La première vient de la bénédiction de Jacob, le patriarche, à l'un de ses fils, Juda, où il est dit ceci, c'est en Genèse 49, le verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que les peuples lui obéissent. » Deux éléments sont à noter à travers cette première référence. Premier élément, une royauté est promise au sein de la tribu de Juda. Deuxième élément, cette royauté aura une influence au-delà du seul peuple d'Israël, jusqu'à ce que les peuples lui obéissent. Il y a une influence, il y aura une portée au-delà d'Israël, aussi sur les peuples païens. La royauté promise à Juda déborde les frontières d'Israël. Spirituellement, cela a aussi une portée pour nous, car cela signifie que le dessein de Dieu a une portée qui déborde le seul peuple d'Israël. Cela signifie pour nous aujourd'hui que l'annonce de l'Évangile déborde les seules frontières de l'Église, les seules frontières des chrétiens. L'annonce de l'Évangile est pour toutes les nations. Or, dans le contexte de la laïcité à la française, nous sommes souvent un peu gauche, un peu timorés pour parler de l'Évangile à ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux qui se revendiquent même d'une autre religion ou sans religion. Or, cette annonce fait partie du dessein de Dieu. Il veut que cette annonce, son salut, déborde les frontières du peuple d'Israël et donc déborde les frontières visibles de l'Église aujourd'hui. Nous avons donc la liberté et même la responsabilité d'annoncer, même à ceux qui ne nous demandent rien, parce que cela fait partie du dessein de Dieu. Deuxième référence biblique, la ville de Bethléem, c'est la ville de David. Le huitième fils de Jessé, celui qui gardait les brebis, celui qui était un simple berger, et que le Seigneur va faire ce roi David, avec qui il fera alliance, et il promet que le fils de David aura une royauté qui ne passera jamais. Évoquer la figure de David, c'est aussi évoquer une royauté qui est basée sur le désir de Dieu, non pas sur la façon dont les hommes voient la puissance. Autant le roi Saül avait été élu parce qu'il était le plus grand et certainement le plus fort, autant David n'avait aux yeux des hommes pour seule qualité d'avoir un beau visage, de beaux yeux, mais ça c'était plutôt les qualités qu'on cherchait chez une femme, pas chez un roi, pas chez un meneur d'hommes ou un grand guerrier. Et c'est pourtant lui qui devient ce roi que le Seigneur a voulu. Spirituellement, il y a là un encouragement à avoir confiance. Ce n'est pas parce que nous sommes petits ou sans grande force aux yeux des hommes que nous sommes insignifiants aux yeux du Seigneur ou que nous sommes insignifiants dans son dessein. Comme le dira la Vierge Marie dans son Magnificat, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Cette mention de Bethléem nous donne donc courage et confiance, même si nous nous sentons petits, même si nous nous sentons pauvres, nous faisons partie de ce dessein de la bonne nouvelle que Dieu veut adresser au monde. Parfois il est bon de se le répéter, de le contempler. Nous faisons partie de cette annonce de la bonne nouvelle que Dieu veut adresser au monde. Alors même que nous sommes petits, alors même que nous sommes peut-être faibles et limités. Le verset 2 cache en lui une autre référence biblique à travers l'explication que les mages donnent pour leur mise en route. Ils disent ceci, « Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Nous sommes venus chercher le roi des Juifs parce que nous avons vu son étoile à l'Orient. Ils font référence à un oracle du prophète Balaam. Le prophète Balaam, dont on parle au livre des Nombres, au chapitre 24, est un prophète païen. C'est un épisode très étonnant parce que c'est un prophète païen que les ennemis d'Israël sollicitent pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. et à chaque fois, le Seigneur ne lui permet pas de maudire le peuple d'Israël, mais va lui faire dire une bénédiction sur le peuple. Et c'est dans cette bénédiction que Balaam va dire ceci: « Je le vois, mais pas pour maintenant, un astre issu de Jacob, d'où sortira un chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. » C'est au verset 17 du chapitre 24 du livre des Nombres. Nous avons la trace ici d'une prophétie du monde païen qui porte sur Israël. Une prophétie qui parle d'Israël et qui circule dans le monde païen. On a la confirmation par des auteurs antiques comme Tacite ou Suétone qu'il y avait dans le monde païen des attentes que de Juda sorte le dominateur du monde. En quoi cela a-t-il une importance? Eh bien, cela révèle que, quand bien même le Seigneur donne sa révélation à travers le peuple qu'il a mis à part, à travers le peuple qu'il a choisi, le peuple d'Israël, et donc aujourd'hui à travers l'Église, le Seigneur développe aussi une action au cœur des païens. C'est ce que les pères de l'Église ont appelé les semences du Verbe. Qu'est-ce que les semences du Verbe? Ce sont des étincelles de vérité auxquelles les païens ont accès et qui doivent aider leur accueil, qui doivent préparer leur cœur à l'accueil de la plénitude de la révélation en Jésus-Christ. Et ces étincelles sont à prendre en considération, ces étincelles sont à repérer, ces étincelles sont à utiliser justement pour annoncer, pour leur permettre de rencontrer en Jésus-Christ celui qu'ils avaient commencé à chercher. Les mages sont exemplaires de ces païens qui ont reconnu des semences du Verbe et qui s'en nourrissent dans leur quête de la vérité. Ces mages venus d'Orient, vraisemblablement de Babylone, où s'était développée une école d'astronomie renommée, ces mages sont détenteurs d'une sagesse philosophique et religieuse. Et c'est une force qui les a mis en chemin. Ce sont des hommes de science, mais aussi de son au-delà. Ils ont repéré un astre et ils y ont vu la naissance de celui qui était annoncé. L'usage de la raison les conduit à une rencontre qui dépasse la raison. L'usage de la science les dispose à la rencontre de celui qui est à l'origine de toute chose. Mais pour arriver jusqu'à Bethléem, il leur faut la rencontre de la révélation. Ils ont pu arriver jusqu'à Jérusalem, mais sont restés bloqués. Il a fallu la rencontre de la révélation pour qu'ils puissent aller jusqu'au Christ qui se trouvait à Bethléem. La portée spirituelle est grande. Premièrement, le juste usage de la raison n'est pas l'ennemi de la foi. Au contraire, il dispose à une rencontre qui dépasse le seul usage de la raison. Deuxièmement, il y a au cœur même des païens une quête de vérité qui a pu se développer grâce aux semences du Verbe. Cette quête de la vérité a pourtant besoin de la révélation pour pouvoir aboutir. Et cela nous amène à regarder nos oikos avec un regard très particulier. En quoi sont-ils chercheurs de la vérité? Parce que c'est à la rencontre de leur recherche de la vérité que la révélation que nous avons reçue pourra les toucher, pourra les orienter. Pour certains, l'amour de la vérité est une chose qui apparaît clairement. Pour d'autres, ce sera plus caché ou parfois plus limité. Mais il s'agit de repérer, j'allais dire, ces débuts de chemin. Donnons quelques exemples. Cela peut être le désir de justice. Quand on voit quelqu'un qui s'occupe des petits, qui s'occupe des pauvres, il y a un sens de la justice qui veut s'accomplir, qui veut se déployer. C'est une quête de vérité. Il y a une semence du Verbe ici qui est à repérer. Pour d'autres, ce sera un sens peut-être de l'hospitalité, un sens de l'accueil tout particulier, une façon d'accueillir et de mettre à l'aise. Ce souci de la personne est là aussi une réaction du cœur face à une semence du Verbe, et donc il y a là aussi l'opportunité de la rencontre de la révélation. Le texte de l'Épiphanie nous invite à ne pas être surpris comme les gens de Jérusalem, mais à être attentifs à ces semences du Verbe, à ces petites quêtes de la vérité qui peuvent être présentes dans le cœur des païens, on pourrait dire d'aujourd'hui, de nos oikos que nous rencontrons, de ces gens qui ne demandent peut-être rien au Seigneur, mais qui ont pourtant un désir qu'ils ne savent pas peut-être bien nommer, mais qui est une disposition à entendre la révélation du Seigneur. Que ce texte de l'Épiphanie nous conforte dans la certitude que, malgré notre petitesse, le Seigneur veut nous associer à l'annonce de sa bonne nouvelle, même pour ceux qui ne nous demandent rien, même pour les païens. Que ce texte nous rende curieux et assoiffés de trouver, de repérer les semences du Verbe à l'œuvre dans le cœur des entre guillemets païens qui nous entourent, dans le cœur de nos oikos, pour leur apporter cette part de la révélation qui pourra éclairer leur chemin et leur permettre de rencontrer le Seigneur Jésus. Je vous souhaite de bons échanges.